Radio Okapi. Les journaux grâce à Mzati.
Des nouvelles stratégies vont être mises en place pour freiner l'avancée des rebelles des ADF dans d'autres nouvelles zones où ils opèrent, le cas de la partie sud du territoire des Béni. C'est l'essentiel de la première journée consacrée à la quatrième phase d'évaluation des opérations militaires sous Dja, menée par l'FRDC et l'armée ougandaise. La journée mondiale de la santé est célébrée ce vendredi 7 avril. En RDC, le nouveau ministre de la Santé dit poursuivre la mise en œuvre de l'engagement du gouvernement relatif à la couverture santé universelle. L'invité de ce journal est le directeur général de la Société congolaise pour l'état des droits, une organisation basée à Kananga, au Kasaï central. Maître Dominique Kambala va nous parler de la léthargie dans le procès de Kamuina Sampou, tout en abordant aussi la question de la somme de 500 000 dollars fonds décaissés par le gouvernement congolais en faveur des victimes de ces conflits. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour. Des nouvelles stratégies vont être mises en place pour freiner l'avancée des rebelles des ADF dans d'autres nouvelles zones où ils opèrent, le cas de la partie sud du territoire des Béni. C'est l'essentiel de la première journée consacrée à la quatrième phase d'évaluation des opérations militaires sous Dja, menée par les FARDC et l'UPDF. Lors de la séance qui a réuni les deux chefs d'état-major des armées congolaises et ougandaises hier à Béni, il a été noté des avancées significatives dans ces opérations, en dépit de la résistance de certains groupes rebelles dans certaines localité. C'est ce qu'a déclaré le général Constant Dima Kongba, gouverneur du Nord Kivu, devant la presse. Il est au micro de Guylaine Kassassia.
Nous sommes satisfaits du résultat de ces opérations. Plusieurs bastions des terroristes ADF-MTM démantelés et plusieurs d'entre eux et aussi des leaders neutralisés. Vous savez, en principe, les terroristes ne cèdent jamais. Aujourd'hui, même les bastions et plusieurs d'entre eux neutralisés, et ils tiennent toujours en petits groupes dans des villages isolés ou dans des champs parce que notre peuple est paysan. C'est là où ils nous font très mal. Raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés pour évaluer que faire. Vous savez, l'étendue de la zone d'action est très large et la couverture aussi fait problème. L'élargissement des zones d'action de la force conjointe, nous avons parcouru, mais ça doit se faire par rapport à l'ennemi. On ne doit pas s'étendre seulement sur des surfaces, mais là où l'ennemi se retranche et que nous avons l'effectivité de sa présence, nous pouvons les frapper. Aujourd'hui, vous voyez une frange des ADF se retrancher encore vers le sud. Alors, nous devons changer aussi le mode d'action pour voir là où se trouvent les gros, là où se trouve le moins, pour qu'on vienne à bout de ces terroristes.
Rappelons que ces opérations ont été lancées le 30 novembre 2021 dans les territoires des Béni, au nord Kivu et d'Irumu en Ituri pour neutraliser les ADF. Toujours dans la région des Béni, la MONUSCO a procédé à la fermeture hier jeudi de sa base militaire de Kamango, chef lieu de la chefferie de Watalinga à environ 80 km de la ville de Béni au nord Kivu. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence des autorités locales ainsi que des représentants de la police nationale congolaise, des FARDC et de la société civile locale. Tous ont salué l'apport de la MONUSCO dans la sécurisation des populations de la chefferie de Watalinga. Martial Papi Mukeba était à Kamango, voici son reportage.
Pour le mois Misambi Libamukoka, chef de la chefferie de Watalinga, la présence de la MONUSCO dans la zone a largement contribué à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la zone.
Les 10 ans que nous venons de rester ensemble, nous avons vraiment un témoignage très fort à ce qui concerne l'intervention de la MONUSCO dans le cadre de la sécurité et même dans le cadre social. Pour le moment, la situation est relativement calme.
Le colonel David Ipanga, commandant du 21-03e régiment des FARDC basé à Kamango, a pour sa part salué l'appui dont ils ont bénéficié de la MONUSCO pendant sa présence dans la zone.
La MONUSCO nous a aidés dans plusieurs sensibilisations sur la matière des droits de l'homme. La MONUSCO nous a appuyés aussi logistiquement. Nous restons avec de bons souvenirs de la MONUSCO.
La société civile Force Vive Noyau de Watalinga s'est réjouie de voir la MONUSCO quitter la zone au moment où la paix y est revenue. Odette Zawa Dinganda est sa présidente.
La mission principale de la MONUSCO, c'était la sécurisation. Et pour le moment où je vous parle, la paix là, ça c'est un grand souvenir puisque nous savons, sans sécurité, rien ne marche.
La base de la MONUSCO fermée à Kamango a été remise aux autorités locales. Des retours de Kamango, Martial Papi Mukeba pour Radio Okapi.
Par ailleurs, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, condamne avec la plus grande fermeté les tueries de plus de 30 civils dans la province de l'Ituri. Dans un communiqué rendu public hier, la MONUSCO dit avoir reçu des informations faisant état de ces massacres des civils ce 6 avril, mais les tueries attribuées aux miliciens des forces démocratiques alliées ADF sont survenues les 2 et les 3 avril à la frontière entre les territoires des Mamba et celui du Rumu. Tout en déplorant ces attaques contre la population civile, Madame Bintou Keïta exhorte les autorités congolaises à diligenter une enquête et à traduire en justice les auteurs de ces exécutions sommaires. Toutefois, la chef de la MONUSCO rappelle l'engagement de la mission à contribuer à ces efforts et réitère son appel à une cessation immédiate des violences de tous les groupes armés contre les civils. Elle réaffirme l'engagement de la MONUSCO aux côtés des forces de défense et de sécurité congolaises pour réduire drastiquement les attaques contre les civils au moyen des patrouilles unilatérales et conjointes. Revenons un instant au Nord Kivu où 3 défenseurs de l'environnement ont été tués pendant l'exercice de leurs fonctions. 10 d'autres ont été kidnappés et 5 condamnés par la justice militaire au cours des 4 derniers mois. C'est ce qui révèle le rapport de monitoring des 16 cas d'atteinte aux droits des défenseurs de l'environnement publié officiellement le mercredi à Goma. L'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, qui en est l'auteur, projette des actions de plaidoyer pour renforcer la protection des défenseurs locaux de la nature. Bernard Denyangi.
Ce rapport d'enquête mené autour et dans le parc national de Virunga couvre une période de 4 mois, soit de décembre 2022 à mars 2023. Parmi les victimes des 16 cas d'atteinte aux droits humains figurent les éco-gardes de l'ICCN, dit le consultant de l'ACDH chargé de ce projet de monitoring. Maître Eric Kambale.
Depuis décembre, 3 éco-gardes ont été tués, plus de 3 autres qui sont blessés. D'autres victimes sont des acteurs intervenant dans les médias, donc des journalistes. Il y a eu des cas de menaces. Il y a 5 défenseurs fossiles qui ont été condamnés à des peines lourdes parce que seulement ils sont déjà qui défendent les droits des autres pour accéder à la terre.
Pour le secrétaire exécutif de l'ONG ACDH, des actions de plaidoyer sont prévues pour renforcer la protection des défenseurs des droits fonciers et de l'environnement dans la région. Maître Olivier Ndolé.
Au niveau local, tous les acteurs qui étaient présents sont déjà des cibles qui vont influencer les pratiques et les politiques publiques également. Au niveau national, les autorités de l'état de siège auront aussi des copies pour qu'elles-mêmes puissent s'impliquer par rapport à cette situation de défenseurs des droits fonciers et de l'environnement.
Cette enquête a été menée dans le cadre du projet de renforcement de protection des défenseurs des droits fonciers et environnementaux dans le paysage Virunga. Projet financé, entre autres, par l'association du barreau américain, ABA. Goma, Bernardin Nyagi, Radio Okapi.
Je l'ai annoncé au sommaire, la célébration de la Journée mondiale de la santé, c'est ce vendredi 7 avril. Le thème retenu pour cette année est la santé pour tous. En RDC, le tout nouveau ministre de la Santé dit poursuivre la mise en œuvre de l'engagement du gouvernement relatif à la couverture santé universelle. Roger Kamba l'a dit dans un message à la Nation à cette occasion. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Paul Matindo.
La RDC, qui a souscrit au cadre des objectifs de développement durable, les ODD, dont la CSU est la cible 3.8 de l'ODD 3, qui consiste à permettre à tous les humains de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être pour tous et par tous et à tout âge. Sur le plan national, la CSU est une stratégie et un objectif de la politique publique de la santé à visée multisectorielle, qui est une vision politique chère au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'attelle aujourd'hui à sa matérialisation. À cet effet, point n'est besoin de rappeler que le gouvernement de la République a inscrit sa mise en œuvre parmi les axes prioritaires du programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2023. C'est dans cette perspective que le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention se déploie avec l'ensemble de toutes les parties prenantes pour rendre disponibles les services de soins de santé de qualité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Pour accélérer la marche de la RDC vers la couverture santé universelle, les efforts que le gouvernement entreprend actuellement sont focalisés sur la mise en œuvre de la feuille de route nationale et provinciale. C'est le moment et le lieu de réitérer une fois de plus les remerciements du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention à la communauté internationale et à nos partenaires au développement pour leur soutien.
Pendant ce temps au Congo central, une effigie du prophète Simon Kimbangu a été dévoilée hier jeudi 6 avril, jour férié décrété en mémoire de l'illustre disparu pour son combat à Matadi. Au cours de cette cérémonie qui a connu la participation des autorités politico-administratives ainsi que des fidèles kimbanguistes, le maire de Matadi a remercié le chef de l'État pour avoir reconnu les mérites du prophète Simon Kimbangu. Dominique Nko Diambete a invité tous les Congolais à s'approprier cette lutte. Nana Plurish Mambu, reportage.
L'effigie est placée au rond-point Simon Kimbangu à Matadi. À travers ces gestes, Dominique Nkodiambe te dit vouloir non seulement marquer la première célébration sur le plan national du jour férié décrété par le président Félix Tshisekedi en reconnaissance de la lutte menée par le prophète Simon Kimbangu, mais aussi honorer l'âme et l'esprit de ce grand homme qui s'est battu pour la libération du peuple africain. Dans son adresse, le maire de Matadi a, au nom de la population de Matadi, exprimé toute sa reconnaissance au chef de l'État pour avoir consacré la date d'ici avril à la commémoration du combat de ses fils du pays.
Beaucoup de présidents se sont succédés à la tête de notre nation. Seul Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo venait de reconnaître officiellement et publiquement la grandeur spirituelle de Papa Simon Kimbangu, et l'histoire en retiendra.
Pour le maire de Matadi, cette date commémorant les combats de Kimbangu ne doit pas être une chasse gardée des fidèles kimbanguistes, mais doit concerner tout Congolais et le peuple africain doit s'en approprier. Signalons que cette cérémonie a été couplée d'un culte et d'un grand défilé auquel ont pris part les fidèles de toutes les extensions de l'église kimbanguiste de Matadi. Matadi, Nana plus riche Mambu, Radio Okapi.
Sud Kivu, l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC en visite à Bukavu invite les opérateurs économiques de son pays à venir investir à l'est de la RDC. Saïd Djoumamchana s'est dit agréablement surpris par les variétés des ressources dont regorgent les provinces du Sud et Nord Kivu. D'après lui, ce sont des potentialités capables de booster le développement au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, de la SADC, voire du monde entier. On écoute l'ambassadeur Saïd Djoumamchana au micro de Jean Kassami.
Unapozungumzia huku Goma, huku Bukavu, Vira, kwa watu wengine ambao wako nje ya DRC wanakuwa na wasiwasi kidogo, lakini napenda kuwafishia.
Lorsqu'on parle de Bukavu, de Goma et d'Uvira, ceux qui habitent en dehors de la RDC pensent que ce sont des villes fantômes. J'ai été bien accueilli par les autorités provinciales, les gouverneurs, les maires, les autorités des services de sécurité, la Fédération des entreprises du Congo, et toutes ces autorités m'ont permis de visiter plusieurs endroits, et partout où j'ai été, j'ai constaté qu'il existe d'énormes potentialités indispensables pour le développement de la RDC, de la Tanzanie et de toute la région et le monde entier. Il nous convient d'aider la RDC à recouvrer la paix, à stabiliser sa partie est, pour bénéficier ensemble toutes ces ressources et chasser la pauvreté dans nos pays respectifs.
Et dans la province du Maniema, la station-service de la Société nationale des hydrocarbures Sona Hydroc, la plus ancienne de la ville de Kindu, est fortement menacée par une érosion. Si rien n'est fait dans l'immédiat, elle devra arrêter toute activité, ce qui sera un manque à gagner pour la population, les services étatiques et la station elle-même. Déjà, le passage est coupé au croisement du boulevard Joseph Kabila et l'avenue du 4 janvier. Pendant que la population se lamente, les agents journaliers craignent de se retrouver au chômage forcé. C'est ce que nous dit Florence Kizalo.
Le mardi 4 avril, vers 20h30, on a assisté à un deuxième affaissement qui a aggravé la situation de la station-service qui dessert en quantité et en qualité les produits pétroliers. Visiblement inquiet, le gérant Zachary Lushima explique.
C'est une station qui répond aux besoins de plusieurs sociétés ici localement. La jauge a toujours été correcte. Il y a une nécessité toujours ici de trouver une solution. Parce que si on ne trouve pas la solution, ça sera catastrophique. Vous voyez là, il y a pris passage vers la gare centrale. C'est une voie aussi qui mène vers l'hôpital général et aussi une voie qui mène vers l'aéroport.
Du côté des agents, la crainte de perdre leur activité se lit sur le visage. Elongo Pamé.
Nous, en tant qu'agents, nous avons la crainte de devenir des chômeurs spontanément. Alors que c'est grâce à ce travail que nous aidons tant soit peu nos familles. Nous avons la peur de devenir des chômeurs.
Signalons que le danger qu'encourt cette station-service menace également les bâtiments qui abritent la Banque centrale du Congo, section Maniema, située juste à côté. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nous poursuivons avec notre série de reportages sur l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA. Dans cette édition, il est question de l'INERA Ngandajika. Il est situé dans la province de Lomami. L'INERA Ngandajika a été créé le 24 mars 1934 dans le but de promouvoir le développement scientifique de l'agriculture congolaise par la mise au point de variétés améliorées des principales cultures adaptées aux conditions écologiques afin d'atteindre une sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté criante. Pour plus de détails, rendons-nous en Mbujimayi où nous appelle Esther Ndalafina.
Le centre de recherche de Ngandajika héberge les quartiers généraux des trois programmes de recherche, à savoir le programme national coton des légumineuses et le programme national maïs. 8 autres programmes y sont représentés par des antennes, notamment l'antenne élevage, celui de manioc, de gestion et conservation des ressources naturelles, de conservation des ressources photogénétiques, de riz, de tubercules, de palmiers à huile, de bananes, ainsi que l'antenne recherche et développement. L'INERA Ngandajika a joué un rôle capital dans le développement de l'agriculture de toutes les provinces de son rayon d'action, celui de la RDC et même de certains pays étrangers. Dans le cadre de la recherche dans les secteurs agricoles, le centre a mis à la disposition du public quelques nouvelles variétés de maïs, des légumineuses, d'arachides, des manioc, des palmiers à huile, ainsi que les différentes espèces arbustives pour conservation de notre environnement. Le centre de Ngandajika est connu pour ses sols à forte potentialité pour l'agriculture et l'élevage. Actuellement, l'INERA Ngandajika est confronté aux difficultés suite à la faible gouvernance dans le secteur agricole, le manque d'un budget spécifique, le faible appui à la recherche, le faible investissement dans le secteur agricole, l'absence des cartes des sols spécifiant leur capacité agrologique, ainsi que le manque de mobilité pour les autorités du centre et pour les chercheurs. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Capital.
Actualité internationale.
Le Liban refuse toute escalade à partir de son territoire, a affirmé jeudi soir le premier ministre libanais Najib Mikati, condamnant les tirs d'une trentaine de roquettes sur Israël depuis le sud du pays. Dans un communiqué, M. Mikati, qui dirige de facto le pays en l'absence des chefs de l'État, a ajouté que le Liban refuse l'utilisation de son territoire pour des opérations qui déstabilisent la situation. Après les tirs provenant du Liban, Israël a accusé des groupes palestiniens et menacé de riposter. Nous frapperons des nos ennemis et ils paieront le prix de chaque agression, a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu jeudi soir à l'ouverture d'une réunion du cabinet restreint de sécurité dans une courte séquence vidéo diffusée par son bureau.
L'invité.
Nous recevons dans ce journal le directeur général de la Société congolaise pour l'état des droits, une organisation basée à Kananga au Kasaï central. Il nous parle de la léthargie dans le procès de Kamuina Nsapu. Maître Dominique Kambala aborde aussi la question de la somme de 500 000 dollars fonds décaissés par le gouvernement congolais en faveur des victimes du conflit de Kamuina Nsapu. Maître Dominique Kambala s'entretient ici avec Élisée Chikota.
Maître Dominique Kambale, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes parmi ceux qui ont suivi l'affaire et le procès Kamuina Nsapu. Où en est-on aujourd'hui?
Le conflit Kamuina Nsapu appelle plusieurs réponses. Et en ce qui nous concerne, nous sommes en train de suivre la réponse judiciaire ou extrajudiciaire. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que il a été identifié 23 dossiers prioritaires et emblématiques depuis 2017. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune décision rendue coulée en force de choses jugées.
Lorsqu'on parle du procès Kamuina Nsapu, il y a deux noms qui reviennent principalement. Il s'agit des deux experts de l'ONU tués. Qu'en est-il des victimes congolaises de cette affaire?
Les experts onusiens s'étaient fait accompagner le 12 mars 2017 de 4 accompagnateurs congolais. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que le procès qui a été engagé devant la cour militaire de l'ex-province du Kasaï occidental a connu un arrêt le 29 janvier 2022. Aujourd'hui, il nous a été rapporté qu'on a prélevé les éléments en vue du test ADN. Mais aujourd'hui, on n'a pas de résultat à ce test ADN. Il semble que les éléments ont été envoyés au laboratoire FBI. Mais malheureusement, lorsque nous avons approché ceux qui étaient intéressés dans les dossiers, on dit, mais au niveau du FBI, ce dossier n'est pas prioritaire. Il s'est fait que le dossier n'est même pas fixé. Pendant ce temps-là, les familles des victimes sont abandonnées à leur triste sort. Donc ça pose un problème sérieux par rapport à une sorte de déni de justice par rapport aux accompagnateurs congolais. Dernièrement, nous avons appris qu'on a exhumé deux corps. Mais si on a exhumé deux corps, il faut que les familles des victimes comprennent où sont partis leurs fils jusqu'à aujourd'hui. Donc ça paraît une sorte de nébuleuse. Nous avons écrit, nous avons contacté, nous avons parlé, nous sommes intervenus par la voix des autres, nous avons écrit à l'auditorat supérieur militaire de l'ex-province du Kassai occidental, mais on n'a pas de réponse.
Il y a environ 2 ou 3 mois, le gouvernement avait décaissé 500 000 $ pour les victimes de Kamwina Nsapu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette somme?
Par rapport à cette somme, c'est une bonne chose. Mais maintenant, ce que nous voulons savoir, est-ce que c'est une assistance humanitaire ou cette somme rentre dans le cadre des réparations? Alors, tantôt on parle des 500 000 qui ont été décaissés, tantôt c'est 700 000. Une fois les sommes arrivées sur terrain, on s'est demandé, c'est ce qui a été donné même aux victimes, bien que les victimes aient applaudi, mais on donne une tôle, une houe, une bêche à des victimes, mais moi je pense que quelque part c'est ridicule. Un pas a été fait, mais à regarder ce qui a été fait, je pense que les victimes méritent encore mieux.
Maître, le gouvernement a mis en place récemment le Fonds national d'indemnisation des victimes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui?
Fonarev. Fonds d'indemnisation des victimes. Ce que je peux dire que pour la première fois, en République démocratique du Congo, il y a une loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Pour la première fois, il faut saluer ça. Okay. Pour la première fois, cette loi met en place un fonds d'indemnisation des victimes, ce qui est une avancée significative. La loi a des innovations qui vont impacter notamment sur la loi portant procédure, le code de procédure pénale. Nous sommes maintenant au niveau des mesures d'application. Aujourd'hui, c'est deux choses. La première chose, il me semble que c'est ce qui est le plus difficile, c'est la désignation des animateurs. Nous connaissons comment ça se passe dans ce pays. Je pense qu'au niveau du fonds d'indemnisation des victimes, il faut des véritables techniciens au niveau de la direction générale, au niveau du conseil d'administration. Le deuxième défi, c'est le défi de la mise en œuvre par rapport au financement. Parce que ici, au Congo, ce qui est bien, c'est de créer des institutions. Mais maintenant, le problème des financements exige encore la mobilisation des fonds, c'est-à-dire mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour les biens des victimes et que les victimes soient associées à toutes les étapes du fonctionnement de ce fonds.
Maître Dominique Kambale, je rappelle que vous êtes directeur général de la Société Congolaise pour l'État des Droits. Radio Okapi vous dit merci.
C'est à moi de dire un très grand merci à Radio Okapi.
Notre invité, Dominique Kambala, était interrogé par Élisée Chikota. Ainsi s'achève ce journal coordonné et supervisé par Pele Kipelamondo et mis en onde par Pierre Diassinois. Vous pouvez les réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net. Merci pour votre fidélité à la fréquence de la paix.